le livre de la Genèse. De la Genèse, c'est le premier livre de la Bible, donc ne cherchez pas vers l'Apocalypse. C'est la Genèse au chapitre 1 et le verset 31. Nous lisons ceci. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Et au chapitre 2, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Et pour être complet dans les lectures d'introduction, Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 4. Alors c'est une lecture un peu plus longue, mais elle renferme un enseignement si précieux. Hébreux 4, verset 1. « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu. » Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Et le début du verset 11, « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Amen. » J'ai hésité à donner un titre à cette prédication, frères et sœurs. Le titre que j'ai couché sur ma feuille ici stipule « Dieu bénit le septième jour ». Dieu bénit le septième jour. Je reprends simplement une fraction de versets. On l'a lu, mais j'ai hésité avec un autre titre qui est plus interpellant et qui est exprimé de la manière suivante. Entrons dans le repos de Dieu. Parce que je suis convaincu que c'est là la volonté de Dieu, de tout mettre en œuvre pour que nous puissions entrer personnellement dans l'expérience du repos de Dieu. Du repos de Dieu. C'est autour de cette pensée que je voudrais parler ce matin. on s'aperçoit que les six jours qui ont précédé le septième nous rapportent les différentes étapes par lesquelles Dieu a créé, on peut dire, les éléments visibles, physiques, matériels, la création matérielle. Ça a commencé par la lumière, le ciel, et puis une partie va émerger, et le sec va s'appeler terre, et puis il va y avoir les luminaires au quatrième jour, le règne végétal, animal, et puis l'homme, et la Bible nous dit, au terme du sixième jour, il y eut un soir et il y eut un matin. Ceci nous parle de la création matérielle, physique. Je fais une projection, frères et sœurs, pour que nous puissions considérer tous les éléments que nous sommes appelés à vivre, les réalités du quotidien, les combats, les luttes, la maladie, parfois le deuil, le malheur sous diverses formes qui peut nous atteindre, nous affecter, certaines circonstances qui nous inquiètent, qui peuvent même nous effrayer. La Bible nous parle des choses visibles et souvent nous sommes dans une agitation permanente pour essayer de gérer les choses visibles alors que Dieu, lui, a prévu une autre dimension. Dieu souhaite te parler, t'aider à entrer dans son repos. Ce que je constate, c'est écrit tout à fait clairement, c'est qu'au terme du sixième jour, qui est ponctué d'une manière inhabituelle, il y eut un soir et un matin, c'est comme ça que Dieu découpe le temps, très différemment de nous, parce que nous, la journée commence par un matin, elle finit par un soir, mais pour Dieu, c'est pas comme ça. Ça finit par un soir, mais le soir n'est pas la fin de tout, il y a un matin. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, justement, que c'est comme cela que Dieu gère ta vie. Lorsque tu as l'impression d'arriver à un soir où on va baisser le rideau et c'est la fin de tout, la fin de toutes tes espérances, la fin de tous tes rêves, la fin de toutes les perspectives que tu souhaites comme positives, tu as l'impression que tout est fini, Dieu dit non, c'est pas fini, il y a encore un matin. C'est comme ça que Dieu gère la vie et les circonstances de ses enfants. Et ma prière, c'est que tu fasses partie de ces enfants en acceptant Jésus-Christ dans ton cœur. Quelle bénédiction de vouer notre vie au quotidien à la sagesse bienveillante de notre Dieu, notre Père Céleste. Tous ceux qui ont décidé de gérer leur vie sans Dieu, la Bible nous dit qu'ils sont aussi sans espérance. Il n'y a pas de matin pour eux. Lorsque je construis mes projets en m'appuyant sur mes propres ressources humaines, mon intelligence, ma force de caractère, j'ai entendu, et nous pourrions être nombreux à le confirmer, des personnes me dire, mais moi, monsieur le pasteur, je me gère. Je gère ma vie. J'ai suffisamment de cran de personnalité pour assumer mes problèmes et les surmonter. Les mêmes qui ont tenu ce discours trois matins plus tard, nous les voyons avec beaucoup de sentiments et de tristesse dans un état de destruction, de défaite, complètement disloqué par la violence d'une tempête. Même celui qui est rempli d'une assurance apparemment immuable, voici que le surlendemain, vaincu par un ouragan violent, se trouve dans un état de perdition et de grande souffrance. Ce qui semble faire la force de l'homme n'est en fait qu'une illusion. L'homme est fragile, tu es fragile, je le suis également. Ce qui va tout changer, c'est de placer notre vie fragile entre ses mains toutes puissantes. Alors là, ce n'est plus un matin qui finit par un soir, mais c'est un soir qui appelle un matin. Et je prie le Seigneur pour que tu aies foi dans ce principe spirituel qui est divin. Ce que tu vis en ce moment, ce n'est pas un rideau qui va baisser définitivement. On éteint les projecteurs et tout est maintenant fini. Non. Bien des fois, et dans les évangiles, nous rencontrons des situations où humainement, on pensait que tout était fini, mais Jésus est intervenu et il y a eu un matin. On va annoncer à Jaïrus, cesse de déranger Jésus, ta fille de 12 ans vient de mourir. Et le père a l'impression que le rideau est baissé, il n'y a plus d'espoir. Ce que voyant, Jésus va lui dire, ne crains point Jaïrus, il y a un matin. Ne crains point, crois seulement. Ta fille vivra, alléluia. Et alors que tous décrétaient la fin de tout, Jésus, prince de la vie, entre dans la chambrette de l'enfant, chasse les pleureuses professionnelles, et l'atmosphère change, l'ambiance change, la mort recule, la vie triomphe par une parole adressée à la petite inanimée, « Petite fille, je te le dis ». Lève-toi. Et la fille ressuscite, et il y a un matin. Et il rend à ses parents la petite bien vivante, puisqu'elle a faim. Elle mange. Hein? Que le Seigneur soit béni, et qu'il te visite ce matin, et qu'il t'encourage par cette parole véritable et fiable. C'est qu'avec lui, un soir appelle un matin. Amen. Que un matin de victoire se lève pour quelqu'un. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que Jésus n'est pas appelé l'étoile du matin? L'étoile du matin. Au plan spirituel, ça nous lance un merveilleux message, de bonnes nouvelles. Il est l'étoile du matin. Il est donc celui qui va engendrer l'espérance. Permettre que je relève la tête. Que je sois délivré des pensées défaitistes qui m'accablent et que je me remette à espérer l'inespérable, à espérer le miraculeux, car notre Dieu, le Dieu de la Bible, est le Dieu des miracles. Alléluia. On pourrait multiplier, bien sûr, les exemples. Un qui me vient à l'esprit, celui du fameux Jacob. La Bible nous parle d'une certaine nuit où Jacob s'est retrouvé en présence de l'ange de Dieu et il a lutté, et il a lutté, il a lutté. Quelqu'un peut-être se trouve dans cette disposition de lutter. On a entendu des témoignages tout à l'heure de personnes qui, dans un premier temps, étaient complètement réfractaires, réactives. Et Jacob a lutté, et puis le soleil commence à poindre, Jacob se laisse vaincre, ses résistances capitulent, le tendon de sa hanche est rompu. Jacob n'est plus Jacob, il est Israël. Et la Bible nous dit qu'un matin, un nouveau matin était en train de se lever. Une nouvelle vie, une nouvelle page, de nouvelles perspectives. Je ne sais pas dans quel état intérieur tu es venu ce matin dans ce lieu, mais ce que je sais, c'est que tu peux en repartir avec une perspective nouvelle. Tu es venu accablé, mais le Seigneur qui t'aime te dit qu'il y a un matin pour ta vie. Et tu peux repartir consolé, fortifiés, la tête haute, les yeux fixés sur Jésus-Christ et le cœur transporté de joie et d'allégresse. Que le Seigneur soit béni. C'est comme cela que le Seigneur procède. Et donc, au terme du sixième jour, la Bible nous dit clairement, Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre. Ça peut sembler surprenant que Dieu se repose, puisque un autre texte dans Ésaïe nous dit que il ne se fatigue pas, le Seigneur. Donc, ce n'est pas un repos tel qu'on l'entend d'habitude. Voyez, moi, quand je rentre le mardi soir à la maison, le mercredi, du matin au soir, j'ai les jambes à l'horizontale, et là, je me repose. Mais je me repose de mes fatigues et je m'aperçois que l'âge faisant, je récupère de moins en moins rapidement. Hein. Mais là, c'est pas un repos de récupération de fatigue parce que notre Dieu ne se lasse pas, il ne se fatigue pas et il n'a pas besoin de renouveler ses forces. Elles sont inépuisables et pourtant, il entre dans un repos. Quelle est donc cette qualité de repos? C'est ce repos-là que Dieu souhaite pour toi et il t'invite à y entrer. En fait, c'est clairement dit, après avoir achevé son œuvre de création des choses matérielles, libre des choses matérielles, maintenant, Dieu entre dans une autre dimension. Il va maintenant s'employer aux choses éternelles et aux choses spirituelles. Et en effet, rapidement, nous voyons s'enclencher, dès les premiers chapitres de la Genèse, le plan du salut. Dieu va maintenant préparer l'éternité, les choses spirituelles. Oui, parce que mon frère, ma sœur, il faut quand même se souvenir qu'il est des choses qui sont éphémères sur terre. Et paradoxalement, ce sont celles qui nous envahissent le plus. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des choses qui ont une dimension éternelle, elles. Et moi, le premier, je reconnais que je ne leur accorde pas l'importance, mais aussi le temps qu'elles méritent. Et Jésus reprend cette pensée en nous encourageant à nous amasser un trésor, non pas sur la terre, parce qu'il y a la teigne, il y a la rouille, il y a l'inflation, il y a les chutes boursières, il y a plein de trucs sur la terre, mais à nous amasser un trésor dans le ciel, dans le ciel. Alors, c'est comme cela que je comprends le repos de Dieu. Dieu en a terminé avec les choses matérielles et maintenant il est pleinement disponible et impliqué pour travailler aux choses spirituelles et aux choses éternelles. Eh bien, nous sommes invités à entrer dans son sillage. Et je termine cette prédication en développant cette pensée où Dieu nous invite à entrer dans ce repos. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos. De même que Dieu a mis un terme aux œuvres matérielles, il va maintenant, nous dit la Bible, bénir et sanctifier, autrement dit mettre à part, le septième jour. Et ce septième jour, lui, il n'a pas de soir. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes dans ce septième jour, nous sommes dans cette dimension spirituelle? L'Église n'est pas un peuple aux ambitions terrestres. avoir une puissance, une reconnaissance sur terre, un héritage, un patrimoine, un capital, même le beau bâtiment que nous avons ici, ça n'est qu'un outil, n'est-ce pas? Ça n'est qu'un outil. C'est un outil que nous espérons efficace pour le salut d'un grand nombre. Mais notre but n'est pas là. Nos racines ne viennent pas s'incruster dans notre carrelage, même s'il est beau. Mais on n'est pas là attaché aux choses de la terre. Nous sommes dans cette dimension. Les choses durant les 6 jours, eh bien, représentent nos soucis, nos préoccupations, nos agenda, nos activités, nos rendez-vous médicaux, il faut y aller, hein. Moi en rentrant j'en ai, et ma femme aussi, mais c'est toutes ces choses matérielles qui sont très passagères, mais que trop souvent nous laissons nous entraver dans notre zèle, notre consécration. J'ai envie de dire à quelqu'un, mon frère, ma sœur, affranchis-toi de l'emprise des choses matérielles et rends-toi pleinement libre pour la dimension spirituelle. Est-ce que quelqu'un dans son cœur ce matin va pouvoir dire « Seigneur, me voici, je suis libre, j'ai trop longtemps laissé mes soucis proliférer dans mes pensées, j'ai trop longtemps laissé mes inquiétudes matérielles, mon travail, mes enfants, le manger, le boire, problèmes de santé, des situations familiales, que sais-je, des difficultés relationnelles au travail, des projets, mais des projets d'ordre d'un aboutissement matériel. J'ai trop donné d'importance à ces choses, Seigneur. Je comprends qu'elles passent plus vite qu'on le pense. Alors ce matin, j'aimerais, Seigneur, qu'un nouveau matin se lève pour inaugurer le 7e jour, une dimension et une période sans fin. Que je puisse prendre à cœur les intérêts de Jésus-Christ. Que je puisse mettre mon nom sur le tableau du ménage. Que je fasse comme Fred, hein. Je me consacre, ma vie t'appartient, Seigneur. Pas seulement en parole, mais en réalité. Je suis là pour toi, je suis à toi, je n'aspire qu'à une chose, c'est que ta volonté soit faite sur la terre, donc dans ma vie, comme elle est faite dans le ciel. Affranchissons-nous. Je me prêche à moi-même, frères et sœurs. Et j'essaye de veiller à cela tout en donnant le temps nécessaire aux choses quand même légitimes, matérielles. Il ne faut pas sombrer dans le mysticisme. Il faut quand même, on a une famille, nos enfants ont besoin de nous. Il n'y a pas de problème, pas de problème. Mais on délimite l'espace qui revient à ces choses. Et on préserve le grand espace qui revient aux choses de Dieu. Est-ce que ce n'est pas ce que Jésus enseigne lorsqu'il dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice ». Et toutes ces choses, manger, boire, se vêtir, etc., ça c'est les choses des 6 premiers jours, voyez, les choses matérielles, tout cela, ça vous sera donné par-dessus. Notre Père Céleste sait de quoi nous avons besoin, que son nom soit béni. Alors, il sanctifie le 7e jour et il bénit le 7e jour. Je crois qu'il y a une bénédiction particulière que Dieu déversera dans la vie de ses enfants qui choisiront toujours de prioriser les choses d'en haut, l'œuvre de Dieu. Le bien d'un frère, le bien d'une sœur, l'édification de l'Église. Moi, je m'oublie et j'ai à cœur le bonheur de l'Église. Et il y a ainsi une bénédiction particulière, une approbation divine déversée sur la vie de celui ou de celle qui entre dans cette dimension. Alléluia. Je termine ce message en faisant mention à des paroles tellement connues et tellement merveilleuses que Jésus un jour a prononcées. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Jésus apporte ce message en deux temps. D'abord, dans un état surchargé, d'épuisement périlleux, je viens à lui. Et il me donne du repos. Donc le repos est un cadeau, il me le donne. C'est une grâce. Et cette grâce est pour tous ce matin. Viens à Jésus, le prince de la paix, et il va te donner le repos. Gloire à Dieu. Et puis il y a un deuxième temps. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions. Et cette fois-ci, vous trouverez du repos. C'est-à-dire que la deuxième dimension, c'est contributif. J'ai une contribution, j'ai une part. La première, je suis pas en état, je suis trop à l'extrémité. Donc je viens à lui et il me donne. Mais il veut me conduire plus loin. Je reçois ses instructions. D'ailleurs, c'est ce qui a fait défaut au peuple d'Israël, tel que l'auteur aux Hébreux nous l'explique, cette parole qui leur a été annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva point la foi en eux. Mais moi, Seigneur, je veux que ta parole trouve la foi dans mon cœur. Et toi, mon frère, ma sœur, est-ce que ce matin, tu vas recevoir ces instructions? Car si tu les reçois, tu trouves le repos. Tu entres dans le repos. Autour, ça va baloter. Le psaume 46, on peut peut-être prendre le temps de lire quelques versets de ce psaume 46. Le psaume 46 nous dit ce que nous allons lire bientôt sur le mur. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. C'est le repos. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. J'ouvre une parenthèse, c'est lui qui fait cesser tes combats personnels ce matin. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Que le Seigneur soit béni. Amen. On va s'incliner quelques instants.